Jeunesse Influente, une émission présentée par et pour les jeunes, tous les mercredis, 14h-15h sur O2 Radio.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue si vous nous rejoignez sur l'antenne d'O2 Radio, la radio des Hauts-de-Garonne, 91.3 sur la bande FM. Pour ce nouveau numéro de Jeunesse Influente présenté une dernière fois aujourd'hui par Yon et moi-même, l'émission sera évidemment disponible à l'écoute et au téléchargement sur le site o2radio.fr. Aujourd'hui donc, pour notre dernière émission, on souhaitait parler de culture et évidemment de jeunes influents. On a trois invités pour l'émission et trois profils différents, trois parcours différents. On va commencer l'émission par découvrir nos invités. On aura une petite pause musicale qui concerne l'un de nos invités à la moitié de l'émission. Puis on essaiera de détailler les possibilités pour les jeunes qui nous écoutent de trouver leur voie et des études ou des projets en lien avec leur passion. Je laisse la main à Yon pour les présentations.
Mais bonjour à tous. Alors oui, on a du beau monde aujourd'hui autour de la table. Je vais faire un petit tour de table avant de commencer rapidement. Donc on a Raphaël, réalisateur, scénariste et acteur qui étudie à l'école 3IS. Bonjour.
Bonjour. Alors juste petite précision, c'est étudier. Je suis un ancien de l'école 3IS. Je n'y suis plus.
Ah ok, tu as étudié. Ah ok, voilà. Je croyais que tu y étais encore. Très bien, ben voilà, ben très bonne précision, très bien. Ensuite nous avons Adrien, designer graphique.
Bonjour.
Et Paul, beatmaker et compositeur.
Bonjour à tous.
Donc très heureux de vous recevoir donc sur le plateau d'O2 Radio. Donc voilà, donc comme le nom de l'émission l'indique, c'est pour la jeunesse et vous avez tous trois des parcours qui à mon avis intéresseront la jeunesse. Donc par rapport à ce que vous faites. Donc justement, est-ce que vous pouvez un peu vous présenter alors ce que vous faites et pourquoi enfin comment vous avez atterri là où vous êtes aujourd'hui. Donc on peut commencer avec Raphaël et on fait un tour de table dans ce sens-là. Donc comment t'es arrivé à faire ce que tu fais? Et est-ce que c'est toi-même qui as trouvé la filière par laquelle tu es passé ou tu as été un peu poussé, quelqu'un t'en a parlé? Voilà, ce genre de petite anecdote.
Ok. Et votre âge aussi pour nos auditeurs.
Ouais, c'est bien aussi.
du coup, moi, Raphaël Larivière, j'ai 26 ans. Donc, comme tu l'as dit, je suis réalisateur, scénariste et acteur. Et j'en suis arrivé là tout simplement parce que depuis toujours, je suis très intéressé par le cinéma, par les films et surtout par le fait d'écrire les histoires et les mettre en scène. Et au fur et à mesure en fait, de mes études, quand j'ai commencé à écrire quand j'étais au collège, j'avais eu des profs qui sont eux spécialisés en cinéma, etc. et qui m'ont un peu conseillé sur les filières à avoir, les écoles où il faudrait aller, où il ne faudrait pas aller, etc. Et après le bac, justement, je me suis dirigé vers 3IS, qui est une école spécialisée dans l'audiovisuel, le son, l'image, etc. Où j'ai suivi une formation qui était un peu particulière, parce que ce n'était pas une formation qui était vraiment centrée sur le cinéma. C'était une formation qui était un peu touche-à-tout, c'est-à-dire que j'ai vu autant l'image que le son, que le montage, etc. Donc c'est-à-dire que j'ai des bases à peu près partout et après moi je me suis beaucoup plus intéressé sur l'écriture de scénarios, sur la réalisation en elle-même et à côté de ça, l'acting en lui-même pour pouvoir jouer aussi dans mes réalisations ou dans les réalisations d'autres personnes.
Parce que j'ai vu que du coup à 3IS, j'ai un peu regardé l'école, à quoi ça ressemblait, ce qui était proposé. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de formations, notamment formation jeux vidéo, tout ça.
Ouais.
Est-ce que t'as pas eu, quand tu étais là-bas, l'envie de tester d'autres trucs ou vraiment dès le début tu savais ok moi je veux faire ça et je garde le cap?
Moi dès le départ, dès que je suis entré à 3IS, je savais ce que je voulais vraiment partir sur la réalisation, que ce soit réalisation de films ou de contenu audiovisuel. Du coup je savais vraiment où est-ce que je voulais aller, mais c'est vrai que étant un très grand fan de jeux vidéo, quand j'ai vu qu'ils avaient ça, je me suis dit ah, si ça marche pas trop, ça pourrait être intéressant. Mais bon, voilà, moi, je me suis vraiment centré sur ça. Et après, ce qui est intéressant, justement, comme tu disais, avec les différentes filières, c'est que nous, en étant élèves, vu qu'on ne se côtoie pas forcément, vu qu'il y a énormément de monde, mais on peut faire appel les uns avec les autres pour pouvoir faire des réalisations, etc. Ça nous est arrivé, nous, là, en dernière année, quand on a dû faire un documentaire, on est allé chercher des étudiants qui, eux, faisaient du graphisme ou de la modélisation 3D, etc., pour nous aider sur la réalisation de notre documentaire, pour y intégrer des éléments à l'intérieur et l'enrichir un peu plus, quoi.
Très bien, okay, ouais. Ouais, intéressant. Et donc, du coup, si jamais il y a des gens qui nous écoutent qui seraient intéressés par cette école, où est-ce qu'elle se trouve? Est-ce que tu peux donner un peu les indications?
Ouais. L'école 3IS, elle se trouve à Bègle. Elle est à trois arrêts de la gare, trois arrêts de tram de la gare sur la ligne C. Et bon, après, voilà, c'est, on ne peut pas vraiment le louper. C'est un gros bâtiment en forme de cube noir avec marqué Troyes en rouge dessus. Voilà.
Ok, très bien. Mais voilà, donc pour ceux qui se posaient la question, voilà, vous savez maintenant, plus d'excuses. Mais très bien, mais merci beaucoup Raphaël pour cette petite présentation. Bah, du coup, Adrien, je te laisse te présenter toi aussi.
Alors, je m'appelle Adrien Robrech, j'ai 20 ans. Mon pseudo, c'est Diax ou Diax Graphics sur Instagram, vous pouvez me retrouver. Je suis designer graphique, c'est ce que je dis pour faire plus simple. Mais je me définis plus comme artiste parce que je touche à beaucoup de médiums différents. Donc c'est un peu compliqué de se définir. Alors comment j'ai commencé ? J'ai commencé en primaire, je voulais faire une chaîne YouTube, comme tout gamin de l'époque, et j'arrivais pas à trouver de bannière ou quoi, donc je me suis fait moi-même ma première bannière, et de là a découlé une passion, donc j'ai continué. Après j'ai fait un parcours normal, primaire, collège, j'ai arrêté les cours en seconde pour des problèmes de santé, et là je me suis focalisé vraiment sur le graphisme, ce qui m'a fait tenir. Et donc après ça j'ai fait une formation pour un équivalent de bac, mais globalement c'était plus pour le diplôme, j'en ai pas retenu grand chose en vrai, j'ai quasi tout appris sur le tas moi-même, avec des tutos, avec des conseils d'amis qui faisaient aussi du graphisme. Et donc là aujourd'hui je suis en freelance, je bosse plutôt dans le milieu du rap, donc pas mal de pochettes d'albums, et en ce moment surtout je bosse beaucoup avec des beatmakers, où je vais faire tous leurs visuels pour vendre leur drum kit, leur prod, etc.
Ok. Et comment tu trouves justement ces rappeurs pour faire des collabs avec eux ? C'est toi qui les démarches ou c'est eux qui viennent te voir ?
Alors j'ai de la chance, j'ai jamais trop fait de démarchage.
Ok.
En vrai, ce qui est marrant, c'est que de toutes les époques que j'ai connues via mon art, donc en passant par les jeux vidéo jusqu'à la musique aujourd'hui, en fait les gens sont plus ou moins toujours les mêmes. Donc en fait, okay. Y a des gens avec qui on s'est suivi, qui ont commencé à faire de la musique quand j'ai fait du graphisme, qui ont des contacts, donc avec le bouche à oreille c'est venu assez facilement. Puis j'ai mon frère qui est beatmaker aussi, donc c'est aussi assez simple à ce niveau-là.
Donc vraiment t'arrives à avoir les contacts un peu,
c'est
en
ça.
Douce.
Bon, aujourd'hui c'est moi qui lui file les contacts.
Ouais, j'avoue. Mais au début c'était moi.
C'est ça. Donc non, ça arrive que je démarche quand vraiment il y a un artiste qui me plaît et que je me dis j'ai vraiment envie de bosser avec lui. Mais globalement, c'est toujours venu sur Insta, via des DM ou quoi.
Ok. Et en termes de charge de travail, quand tu prends, disons, le début d'un projet, donc niveau A jusqu'à Z, ça te prend combien de temps de tout finir ?
Alors, bah, tout dépend du projet, évidemment, mais sur les projets que j'ai l'habitude de faire, donc en ce moment, c'est plutôt de la vidéo, des trailers, des trucs comme ça, ça me prend entre 2 à 3 jours avec... 5-6 heures de taf par jour.
Ok. Ok, ça marche très bien. Bah, merci pareil pour cette présentation.
Avec plaisir.
Et on finit avec Paul, du coup, toi donc, qui
enchanté.
Est beatmaker et compositeur. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce que tu fais et comment t'en es arrivé là aujourd'hui ?
Bah, du coup, je me présente. Paul, beatmaker, compositeur, artiste, si on veut vraiment. Qu'est-ce que l'art ? Bon, c'est un autre sujet. Alors déjà, comment j'en suis venu un petit peu à la musique, ça a toujours été un peu une passion. Bon, dans la famille, ça écoutait plutôt de la variété française, ce qui est plus trop mes goûts actuellement. Mais du coup, ça s'est un peu démocratisé quand j'ai craqué mon premier logiciel de musique, quand j'étais en troisième. Et après, petit à petit, en fait, ça s'est enrichi avec des amis. On voulait faire de la musique et au fur et à mesure, j'ai toujours gardé cette passion de côté. Et c'est vraiment quand j'ai terminé mon bac plus 2, donc bien après, où j'avais fait une espèce de petit séminaire avec des copains. On était dans la maison d'un ami pendant une semaine. Il n'y avait pas ses parents. On se gérait tout seul. Et en fait, on a fait n'importe quoi. Mais j'ai adoré l'expérience et j'ai adoré le fait qu'on puisse se faire plaisir avec de la musique et créer plein de choses nouvelles. Et c'est à partir de ce moment-là où j'ai pris une année sabbatique. Je me suis lancé tout seul en indépendant. Bon, au final, c'est pas comme si ça avait marché incroyablement et que maintenant je vivais de la musique. Mais ça m'a permis vraiment de me rendre compte qu'il y avait plein d'autres gens qui partageaient ma passion. Et j'ai pu lancer mes propres réseaux, apprendre, développer un petit peu plus la vidéo pour tout ce qui est type beat, par exemple sur YouTube. Donc c'est le fait de mettre une instrumentale en ligne, de la partager sur YouTube pour que d'autres rappeurs puissent retrouver cet instrumental et poser dessus. Et aujourd'hui, c'est la façon de vendre ces
instrumentales. C'est gratuit de reprendre...
Alors, si tu veux l'utiliser sur les plateformes de streaming, non. Il faut payer ce qu'on appelle une licence. Et en gros, ça dépend, t'as des catégories. Mais généralement, quand les gens prennent quelque chose qui n'est pas exclusif, ça veut dire que d'autres gens peuvent utiliser la prod, acheter la prod après. Okay. Et si quelqu'un te dit qu'il veut la prod exclusivement, donc il n'y a que lui qui peut l'utiliser, il doit payer un plus gros prix. Mais du coup, plus personne après ne peut l'utiliser.
Ok, très bien. Et je me demandais, après vous avoir écouté tous les trois, en fait, pour chacun de vos domaines, si vous deviez un peu mettre en avant des compétences qui permettent un peu de se démarquer des autres personnes, parce que c'est quand même des milieux où il y a pas mal de concurrence dans tout ce que vous faites. Mais qu'est-ce qu'il faudrait mettre en avant, selon vous, pour se démarquer? Je ne sais pas si vous avez des petites idées, parce que, en fait, quand on regarde, que ce soit du côté des graphistes, même du côté des beatmakers, ou même encore dans juste l'acting, il y a beaucoup de monde. Qu'est-ce qu'il faut faire pour se démarquer? S'il y en a qui se demandent, putain, mais moi j'aimerais faire ça, mais il y a trop de monde, c'est galère. Qu'est-ce que vous diriez, vous?
Déjà, je pense que il faut avoir sa patte, il faut avoir son petit côté unique qui fait qu'on arrive à savoir, on arrive à comprendre qui est l'auteur directement. Donc à mon avis, faut un peu développer ce qu'on appelle sa niche, c'est-à-dire vraiment genre si par exemple, enfin c'est un peu sa spécificité, sa spécialité quoi, quelque chose qui fait que on va retrouver différents éléments qui font que c'est ma patte artistique, c'est ça, donc les gens vont pouvoir capter que c'est moi directement sans qu'il y ait ma signature directement dessus, voilà. Et après, je trouve qu'il y a un peu de côté, c'est soit le fait d'être très spécialisé dans quelque chose, soit d'être hyper polyvalent et de pouvoir faire plein de trucs différents en même temps. Okay. Donc pour moi, c'est un peu ces deux côtés-là.
Moi je pense qu'il faut être créatif, évidemment, mais comme dit Paul, faut avoir sa patte. Donc pour ça, je pense qu'il faut bien travailler son art. Mais surtout, faut pas oublier que l'art, c'est accessible à tout le monde. Donc, faut pas avoir peur de se lancer ou de se dire ça va pas marcher parce que c'est saturé. En vrai, même moi, il y a un an, je me disais c'est saturé, je me lance, mais c'est mort. Et au final, aujourd'hui, j'en vis. Donc, franchement, juste le plus important aujourd'hui, c'est les contacts. Donc, pour ça, faut juste être humain et aller parler aux gens, prendre toutes les occasions. Et après, être honnête dans son art, en fait, montrer ce qui te ressemble.
Quelque chose à ajouter peut-être sur le...
sur ça, moi je les rejoins un peu. C'est vrai que si on veut se démarquer là-dedans, y a pas moi je dirais qu'il n'y a pas besoin d'avoir de compétences en fait, particulières. C'est avant tout faire ce qui te plaît, ce qui te maintient là-dedans, dans cet art-là. De toujours aller plus loin là-dedans et surtout ne pas s'arrêter aux premières critiques, aux premières choses, etc. Parce que quand on fait de l'art, il y a des gens qui vont aimer ce qu'on fait, il y en a d'autres qui vont pas aimer, mais ça c'est normal, c'est le jeu, ça en fait partie. Et il faut apprendre à vivre avec, et c'est avec ça justement qu'on peut devenir plus fort entre guillemets, avancer, aller un peu plus loin et se perfectionner dans ce qu'on fait. Comme justement tu disais, ce qui est important, c'est d'avant tout faire les choses pour nous. Parce que si on fait quelque chose que nous on aime, derrière, il y aura beaucoup plus de gens qui seront réceptifs que si on faisait quelque chose de purement banal, juste pour avoir un minimum de buzz, quoi.
Ouais, parce que tu parlais de patte tout à l'heure, c'est un peu la chose qui vous définit, en fait, c'est cette patte dans chacun de votre art. Donc j'aimerais savoir, qu'est-ce que c'est votre style à vous ? Parce qu'il y a des milliers de films, qu'est-ce que c'est ton style ? Il y a des milliers de professionnels dans tous les métiers, qu'est-ce que c'est votre style à vous ? Même si on a la radio, que c'est compliqué d'illustrer pour certains de vos arts. Qu'est-ce que c'est votre style, votre spécificité ?
Moi, au niveau de au niveau du cinéma, donc même que ce soit scénario ou réalisation, moi je m'enregistre plus, on va dire, dans un style pour l'instant qui est un peu plus sur l'horreur, tout ce qui est aussi au niveau des univers de super-héros, etc. Je joue beaucoup plus là-dedans. Et après, bon, après voilà, je prends des inspirations sur beaucoup de choses, que ce soit des films, des clips, même des jeux vidéo. J'essaye d'implémenter pas mal de mécaniques, des fois, de jeux vidéo dans ce que j'écris pour mélanger un peu les deux choses. Donc, deux choses que j'aime beaucoup. Créer des choses intéressantes et qu'on ne voit pas assez souvent, je trouve.
Votre patte à vous, c'est...
Pardon, j'étais perdu dans ces explications. Alors, en fait, la complexité, c'est qu'aujourd'hui, j'ai du mal à me dire que j'ai une patte. Techniquement, j'en ai une. Moi, actuellement, j'utilise une technique, c'est le mix média. C'est une tendance qui est en train de monter pas mal. Le principe, c'est de mélanger différents médiums. Donc, par exemple, ce que je fais habituellement, ça va être de prendre une vidéo, extraire toutes les images par seconde, les imprimer, les rebosser sur papier, puis les rescanner. Et donc, ça te donne un rendu qui est assez unique. Et à chaque fois que tu en fais, ça sera toujours différent parce que tu as plein de paramètres à prendre en compte. Donc, on va dire que si je devais dire que j'ai une patte aujourd'hui, c'est via ça. Mais après, j'ai du mal... à me dire que j'ai moi-même ma propre patte, je trouve que c'est ultra dur à définir. Par contre, c'est sûr que quand je regarde sur le marché ce qu'il y a, alors il y a des choses qui me ressemblent un peu et je vois des gens essayer de me copier un peu, si on peut être honnête. Comme ma patte se définit par une technique, j'ai du mal à me dire que j'ai vraiment une patte. Okay.
Et sur le marché, justement, est-ce que tu as repéré une certaine tendance, un truc qu'en ce moment tout le monde fait ou ça n'existe pas trop dans le milieu graphique ?
Bah, il y a toujours eu plein de tendances, t'en as des dizaines par an. Moi, dans ma clientèle et dans ma concurrence, jusque-là, j'étais le seul à faire du mix média. Et là, je vois que ça monte. J'ai vu des prédictions aussi, parce que si tu veux, chaque année, t'as des gens qui font des prédictions des tendances à venir, etc.
Okay.
Des gens qui disaient aussi que cette année, ça allait encore plus péter, alors que moi, je me disais, mais là, dans un an, c'est déjà mort, tout le monde en fait, tu vois. Et je pense que ce que je fais, ça va rester tendance et c'est une tendance à venir, entre guillemets. Mais après, oui, il y a toujours eu des tendances. Mais en fait, c'est comme la mode, c'est des cycles. Ça revient tous les 3 ans, toujours les mêmes choses.
Ok, ouais. Très bien. Et du coup, toi, Paul, du coup, est-ce que toi, pareil, une patte, un truc qui te différencie un peu des autres ?
Qu'est-ce que ça peut être ? En fait, je me caractérise comme vraiment quelqu'un de polyvalent, c'est-à-dire que je peux faire un petit peu tous les styles. Mais du coup, je dirais que ce qui me caractérise, c'est un peu toutes les inspirations que je vais venir prendre à droite, à gauche, et surtout le fait que j'écoute de la musique tous les jours et beaucoup d'underground, des choses qui sont vraiment très nichées, avec peu d'auditeurs. Mais du coup, en fait, on découvre des pépites et des trucs que personne n'a vraiment jamais entendu. Et quand on vient incorporer ces éléments et qu'on les ajoute à des choses, enfin des styles un petit peu plus mainstream, ça fait que ça a fait sortir un peu une patte. Mais j'ai pas vraiment genre d'éléments qui va vraiment ressortir, peut-être un petit peu dans la structure ou aujourd'hui j'avoue que je surutilise pas mal ce qu'on appelle des tags, donc ça va être vraiment une espèce de, comment dire, enfin généralement c'est une voix qu'on va utiliser pour se présenter. Et aujourd'hui, je dois en avoir peut-être une trentaine de différents. Okay. Avec, j'ai un copain qui a eu la chance d'avoir le contact de Richard Darbois, qui est la voix de Buzz l'éclair. Et donc, j'ai littéralement des tags de Richard Darbois qui me fait, par exemple, des DJ Sucre ou des certifiés classiques de la street. Mais du coup, je trouve que ça me fait beaucoup me démarquer et il y a ce côté un petit peu humoristique de mettre en plein milieu de ta prod un « comment ça mon ref » ou des explosions, ouais, de Vine.
C'est pas très habituel.
C'est pas très habituel. Et je pense que c'est ce côté un peu humoristique et ironique. Enfin, il y a beaucoup de second degré là-dedans. C'est, on va en surutiliser, mais en même temps, on dose un petit peu et on fait en sorte que ça trouble pas non plus le rappeur quand il va venir poser dessus. Donc, okay. Je dirais que c'est ça.
Et justement, t'as pas des inspis? Genre, est-ce que t'as d'abord, quand t'as commencé, des rappeurs ou je sais pas, juste des sons qui t'ont inspiré à toi en faire
J'aurais dû vachement m'enseigner là-dessus avant.
Bah, ou au moins même un modèle de beatmaking aujourd'hui.
Bah alors en fait, mes inspirations, elles évoluent vraiment de mois en mois parce que j'essaye jamais de me limiter qu'à un seul artiste. Évidemment, j'essaye de revenir un petit peu aux sources de temps en temps, écouter un petit peu de mainstream. J'avoue qu'en ce moment, je suis vraiment mangé... Il y a un album en commun de trois artistes anglais. C'est Fimi Guerrero, Lindsay Fou et Lane. Je crois que l'album s'appelle Conglomerate, si je dis pas de bêtises. Et en fait, c'est vraiment une patte où ils ont surutilisé les basses. Les basses sont ultra fréquentes. Vraiment, ça vient saturer tout le mix. C'est-à-dire que vraiment, la basse, elle vient écraser la voix. Et on entend ça. Il y a vraiment des artefacts qui font que, genre, on sait que la basse, elle est présente. Et quand tu la joues dans ta voiture, t'as l'impression d'entendre que de la basse. Mais c'est ce côté-là aussi, on revient un petit peu à ce qu'on avait avant, par exemple Lil Pump. En fait, on revient un petit peu à du rap ignorant où on se concentre beaucoup moins sur les lyrics et beaucoup plus sur la vibe et le mood que ça va donner en général, avec des sons qui sont beaucoup plus courts. Et j'avoue qu'en ce moment, ça m'inspire beaucoup parce que je suis beaucoup plus dans la musicalité que vraiment dans la recherche des textes écrits.
C'est pour ça qu'il y a une importance aussi des beatmakers qui sont de plus en plus reconnus. Maintenant, souvent, quand il y a un beatmaker sur un feat dans le rap, des fois même il est cité du
Exactement.
Coup en principal quand on écoute le titre sur Spotify. Et donc, ouais, maintenant, il y a un aspect où je pense que le beatmaking, ça va devenir encore plus important vu qu'on donne une importance énorme à...
Complètement, complètement. Aujourd'hui, c'est-à-dire que déjà il y a quelques années, les crédits Spotify, généralement, les gens, ils les remplissaient même pas. Aujourd'hui, on peut voir directement quels gens ont participé, et notamment si vous regardez des énormes artistes, généralement sur des titres, t'as 20 personnes. Mais en même temps, parce que chacun vient apporter sa patte au projet. Et ouais, comme tu dis, maintenant, t'as beaucoup plus de beatmakers qui sont affichés en featuring ou même des projets de beatmakers. Et je suis ravi que ce métier devienne de plus en plus accessible et qu'il y ait de plus en plus de ressources là-dessus. Et pour moi, c'est hyper important que le métier se fasse reconnaître parce qu'on fait partie des premiers gens qui se font oublier ou qui se font douiller. Le nombre de gens avec qui tu travailles et finalement qui ne te payent pas, c'est assez énorme. Donc il faut surtout se protéger là-dessus, même si le droit, c'est pas très intéressant, c'est très compliqué, mais pour ceux qui veulent se lancer, renseignez-vous quand même.
Il faut se protéger, il y a de la douille.
Même dans les grands labels, il y a de la douille. Je vais pas citer des noms parce que j'ai pas envie de me fermer des portes, mais il y a de la douille, il y en aura partout, même avec les petits artistes. Voilà, après le rap aujourd'hui, c'est une question d'ego aussi. Donc,
Ok. Et de manière générale, t'as l'impression que du coup, ce que tu fais, c'est plus ouvert. Enfin, il y a beaucoup plus de gens qui demandent les compétences que toi tu as. Ou en fait, justement, c'est un milieu où c'est toujours les mêmes qui sont rappelés tout le temps. Ou est-ce que ça s'ouvre en fait?
En fait, c'est en train de plus en plus s'ouvrir, mais surtout dans le côté moins mainstream. Aujourd'hui, quand t'as des artistes genre Gazo, généralement tu vas avoir Scar ou Nardé qui sont un peu genre les beatmakers du mainstream français. Mais ça s'ouvre de plus en plus parce que justement, comme disait Adrien, c'est les contacts qui jouent.
Okay.
Et du coup, il y a un petit roulement, mais c'est vraiment léger. Bon, après, je les comprends. Quand tu travailles avec des artistes qui t'ont produit des hits, pourquoi est-ce que tu as envie de plus travailler avec eux? Moi, si j'ai un hit, j'ai un disque d'or, disque de platine, disque de diamant, forcément, ça donne envie de retravailler avec les mêmes personnes. Donc, c'est un cercle fermé, mais qui s'ouvre. Faut avoir les contacts.
Est-ce que tu dirais qu'il y a autant de rappeurs que de beatmakers ou pas du tout?
En vrai, même je dirais peut-être qu'il y a plus de beatmakers.
Ah ouais?
On se rend pas compte, mais rapper, faut quand même avoir une certaine aisance à l'oral. Et aussi, même si on peut rester anonyme, faut quand même se présenter, faut quand même parler de soi, de son vécu. Alors que dans le côté musical, c'est beaucoup plus subjectif. Tu peux exprimer ce que tu as ressenti ou tu peux donner un certain mood. Si tu as envie de faire je sais pas, une musique qui traite de la forêt, bah, tu vas mettre je sais pas, des bruits de pluie, des bruits de vent et tu vas évoquer ce sujet-là, mais tu ne vas pas le dire directement. Donc en fait, c'est beaucoup plus anonyme et on connaît beaucoup moins les visages des beatmakers. Donc je pense que c'est okay, plus accessible dans ce sens-là où on a l'impression de moins se faire juger, où on est un peu derrière une espèce de protection, un écran, où on n'a pas l'impression en tant que personne de se faire juger, mais plus la création qui se fait juger.
Ouais, et le travail. Coup, okay.
On se remet en question. Et je pense que c'est beaucoup plus facile que directement s'afficher et de prendre la critique un peu pour soi.
Ok. Et pour rester un peu dans le milieu du rap, du son, tout ça, bah Adrien, justement, tout à l'heure, j'ai regardé sur ton compte Instagram, et même tout à l'heure, tu le disais, que tu fais beaucoup de projets avec des rappeurs, tout ça, avec des gens qui sont dans le milieu du son. Comment tu choisis les personnes avec qui tu travailles ? Est-ce que c'est, tu aimes ce qu'ils font d'abord ? Ou est-ce que juste ce qu'ils font, ça peut rentrer, disons, dans le même monde que toi, ce que tu fais ? C'est quoi les critères, un peu ?
Je sais pas trop s'il y a des critères. Moi, je... non, je prône beaucoup le lien humain. Donc, en fait, avant de vraiment commencer à bosser ensemble, on va vraiment parler longtemps, voir ce que la personne veut. Mais en fait, le temps de comprendre exactement ce que la personne veut et pourquoi, t'arrives vite à savoir si c'est une bonne personne ou si c'est juste un gars qui sait qu'il peut se faire plus de sous parce qu'il aura un bon visuel ou des trucs comme ça. Donc, j'ai de la chance parce que j'ai pas trop de mauvaises personnes qui sont venues. Mais non, en fait, le tri, il se fait... On me contacte et c'est moi qui fais le tri un peu, mais c'est rare que je dégage vraiment des gens.
Ouais, tu refuses pas trop ce qu'on te... Quand t'as une proposition, tu refuses pas trop ou ça se passe comment ?
Bah, y avait ça au début parce que évidemment, pour commencer à te faire connaître, à faire de l'argent,
ouais, tu prends les projets,
faut prendre tout ce que tu peux. Et en fait, c'est marrant parce que en général, les plus relous, c'est les plus petits, ceux qui ont rien. Okay. Ils ont rien et en plus ils te permettent de mal te parler ou de pas être bon avec toi. T'as après la tranche où les gens ils commencent à être un peu bons, où ils ont confiance en eux, et là ça marche super bien, ils sont tous ultra gentils. Et après, quand tu tapes vraiment plus haut, t'as les gens avec de l'ego, où il faut savoir des fois mettre son propre ego de côté parce que faut respecter les plus gros artistes, mais il faut aussi savoir dire stop quand.
Ouais,
quand,
normal. Quand ça va pas. Ce que j'allais dire, parce que parfait, bah, t'en as parlé un peu, est-ce que c'est un milieu où il y a un peu d'ego ou est-ce que c'est.
Oui.
Ouais, c'est égolant un peu. Bah,
déjà, entre nous, les artistes, je trouve qu'il y a énormément de concurrence.
Saine ou c'est
bah,
pas trop...
Justement, pas ultra saine. De plus en plus, il y a de la concurrence saine. Quand tu regardes, par exemple, sur Twitter ou Instagram, t'as pas mal de groupes d'artistes où on va se partager des avis, se donner des inspirations, des trucs comme ça. Là, c'est vraiment sain. Mais en fait, tu regardes il y a un ou deux ans, ça, c'était très très niche ce genre de groupe. Alors que maintenant, sur n'importe quel réseau, comme l'art est ultra accessible, ben en fait, si t'es un minimum intelligent, tu vois un truc qui te plaît, tu vas commenter, tu vas partager. Donc ça te fait un contact. Donc ça te fait une relation assez saine parce qu'en fait, vous deux, vous allez vous donner de la force et vous donner des avis, des conseils, des trucs comme ça. Donc c'est de plus en plus sain. Mais je pense que ce qui est encore le moins sain, c'est entre techniciens et artistes, entre guillemets. Donc, entre, quand je dis techniciens, c'est nous, les réals, les graphistes, même beatmakers. Et artistes, bah, les interprètes. Là, il y a beaucoup d'ego chez les interprètes. Et c'est parfois un petit peu compliqué
ouais,
à gérer.
J'imagine bien. Ouais, j'imagine bien. Et du coup, il y avait une question aussi que je voulais te poser, que je n'ai pas posée tout à l'heure, il me semble. C'était pareil, est-ce qu'il y a des choses qui t'inspirent, des courants artistiques, je ne sais pas ? Ou est-ce que tu t'inspires de ce que toi, tu vis au quotidien pour faire, mais pour faire ce que tu fais, tout simplement ?
Bonne
ou est-ce question. Que, ou est-ce qu'à chaque fois, tu... Alors, ce n'est pas le bon mot, mais est-ce que tu te plies à la demande et du coup, tu ne peux pas trop faire comme toi, tu voudrais ? Ou est-ce que, bah, en fait, justement, c'est full à l'inspi ?
Non, mais en fait, je me rends compte que je suis ultra chanceux parce que, justement, c'est rare que j'ai des clients qui me laissent pas de liberté. Okay. Globalement, on donne des mots-clés ou des trucs comme ça, des images d'inspiration. Et après, ils me disent, mais fais à ta sauce, on te fait confiance. Donc ça, c'est
bien, ça.
C'est assez cool. Et du coup, est-ce que j'ai des... comment vient mon inspiration ? Je pense que, bah, de façon un peu comme tous les créatifs, maintenant avec les réseaux, t'as de l'art partout, même ouais. Dans la rue, tu vois un flyer, c'est de l'art. Donc l'inspiration, tu la prends n'importe où. Je regarde TikTok, je scrolle deux fois, je suis déjà inspiré. Même dans la rue. Là en ce moment, je taffe énormément, donc la rue, je la vois plus trop. mais rien que les réseaux, c'est énorme. Et après. De plus en plus, je retourne vers des inspirations de la vie, entre guillemets, parce que je commence un peu à choper ce truc-là de la nostalgie de l'enfance et tout, et que j'ai vraiment envie de retranscrire parce que je trouve que c'est un truc qui touche énormément. Donc,
ouais, tu peux faire passer des messages à travers ce que tu fais ou c'est un peu compliqué ?
Bien sûr. Bien sûr, après, c'est un peu le plus compliqué parce que faut avoir un peu déjà à la base une idée de là où tu veux aller et savoir comment tu retranscris exactement l'émotion. Mais aujourd'hui rien qu'avec des couleurs tu peux retransmettre quelque chose, avec un objet, une image, une photo, enfin il y a tellement de choses qui nous font réfléchir, qui nous font penser à autre chose, qu'en fait tu peux amener n'importe qui vers n'importe quoi assez facilement. C'est juste, c'est de la réflexion, mais c'est un peu de la science, hein, finalement.
Ouais, c'est psychologique en fait.
Ah oui, bah, c'est sûr.
Très bien. Et du coup, Raphaël, tiens, pareil que pour Adrien, en fait, tout à l'heure, je regardais pareil sur ton compte Instagram, je suis tombé sur un film où tu as travaillé dessus l'année dernière, donc Souvenir d'un monde brûlé. Alors peut-être que tu peux nous en dire quelques mots, et aussi peut-être par rapport aussi à tes projets plus actuels, donc cette année, etc. Ce que tu pourrais nous en dire, voilà.
Ouais, bah, Souvenir d'un monde brûlé, c'était un court-métrage qu'on avait fait l'année dernière pour le Nikon Festival de l'édition dernière. Et c'est pas vraiment un court-métrage, c'est plus une fiction sonore.
Okay.
C'est-à-dire qu'on avait juste filmé un seul plan, où on n'avait pas d'acteur ni rien. Et sur le plan, on a créé toute une histoire juste avec le son, avec de l'ambiance, etc. pour raconter ce qu'on voulait. Et c'était. En gros, l'histoire, c'était une famille juive qui, durant la Seconde Guerre mondiale, se faisait déporter directement vers un camp et séparer à ce niveau-là.
Ok. Et c'est toi qui... Enfin, comment tu choisis le thème ? C'est imposé ou c'est toi qui es absolument libre sur ce que tu fais ?
Non, sur le Nikon, on a toujours un thème qui nous est donné. Donc l'année dernière, c'était le feu. Là, cette année, c'est les super-pouvoirs. Okay. Et du coup, vu que l'année dernière c'était le feu, nous on a réfléchi un peu à ce qu'on pouvait faire. On est parti sur cette idée-là qui pouvait être intéressante, que ce soit dans la mise en place ou dans la technique, parce que c'est des choses qu'on n'avait pas trop l'habitude de faire. Et ouais, ça a été quand même très très intéressant, même si le tournage a été un petit peu galère.
Ouais, il y a des complexités au niveau du tournage.
On avait eu les complexités parce qu'il nous fallait un four, on voulait en fait un four à pain un peu à l'ancienne.
Ok.
Pour coller un petit peu avec l'ambiance. Sauf qu'on n'avait pas trouvé, et on avait trouvé un vieux monsieur qui nous avait fourni le four très gracieusement le jour même. Il était très sympa. Et, sauf que celui qui était avec moi, lui, il voulait vraiment avoir un effet sur l'image, un effet, ce qu'on peut appeler un effet waouh. Donc vraiment avoir la fumée comme si le four était à l'intérieur et tout. Sauf que le monsieur ne voulait pas qu'on allume de feu à l'intérieur. Donc.
S'il le réutilise après, c'est sympa, logique.
Et ce qui s'est passé, c'est que celui qui était avec moi, il avait foutu le feu à un des vêtements qu'on avait, il avait mis juste à l'entrée, et derrière, il avait mis des fumigènes noirs pour simuler la fumée. Sauf que à la fin, le vêtement a pris un feu un peu trop, donc ça a commencé à cramer l'intérieur, le fumigène a noirci tout l'intérieur du truc, on était en mode « oh putain !» Le vieux monsieur il est venu nous voir, il nous a dit « bon, par contre là vous partez pas sans avoir nettoyé, parce que moi je m'en sers demain, je veux pas qu'il y ait des trucs encore, je suis « ok !» Mais bon, okay. C'était assez drôle.
Des complexités techniques qu'on ne peut pas trop s'attendre avant d'avoir fait...
C'est ça.
Pour avoir fait l'expérience, pour savoir. Ouais. Ça va.
Ah oui, non.
C'est vrai qu'on ne s'y attend pas trop. Quoi.
Du coup, c'est aussi un truc d'ego que tu travailles à plusieurs et du coup, tu as plusieurs personnes qui sont obstinées dans une idée. C'est un peu dans le monde de la réalisation du cinéma et tout cet art-là, il y a un peu ce truc aussi d'ego, de j'ai mon idée, je vais y aller, donc c'est compliqué de travailler avec des gens.
C'est compliqué, oui et non, parce que pour pouvoir faire un film, c'est toujours un processus qui est quand même assez long. Donc, du coup, quand on décide de le faire à plusieurs, oui, comme tu dis, il y a ce jeu d'ego qui peut se mettre en place, parce que forcément, même si on s'entend sur une idée, on a toujours un qui a une vision un peu différente, donc ça s'entrechoque au bout d'un moment. Mais généralement, ce qu'on essaye de faire, c'est de toujours trouver des gens qui sont à peu près sur la même longueur d'onde, où on sait qu'on peut se temporiser chacun et se dire « Bon, ok, toi, t'as ton idée comme ça, moi, je l'ai comme ça. Viens, on trouve un entre-deux pour qu'on puisse faire la chose comme il faut. » Là, sur ce tournage-là, j'étais avec un ami que je connais depuis un petit moment maintenant. Sauf que lui, il a un caractère qui est quand même très fort. Donc, même si des fois, j'arrive à le temporiser, ça marche pas tout le temps. Donc quand il a un truc, des fois il y va et c'est derrière, moi je lui dis voilà, je t'avais prévenu. Mais
ok, et du coup dans les projets un peu plus actuels, par exemple pour cette année, qu'est-ce qui est sur le feu, quoi, enfin, sans mauvais jeu de mots.
Dernièrement, justement, vu que moi je suis plus étudiant, on a fondé une association avec des amis qui s'appelle le studio Atama sur Bordeaux.
Okay.
Qui nous sert à produire justement des films, etc. Et pour l'édition de cette année du Nikon Festival, on a fait 3 films différents, dont un que j'ai écrit, réalisé avec justement l'aide d'un autre de l'asso et dans lequel je joue, et qui sont justement actuellement disponibles sur le site du Nikon Festival. Donc voilà.
Ok. Et pareil dans les autres questions que j'avais un petit peu. Je me demandais, dans l'écriture d'un scénario, puisque donc tu es scénariste aussi, c'est quoi que tu trouves le plus difficile dans cet exercice ? De se lancer, de trouver une fin,
Non, en vrai, de trouver l'idée, trouver le début, la fin, etc., c'est assez facile. Moi, personnellement, ce que je trouve le plus compliqué, c'est les dialogues. C'est extrêmement difficile de bien écrire un dialogue et de faire en sorte à ce qu'il marche bien. Parce que quand on l'a en tête, quand on a l'histoire en tête, etc., nous, ça peut nous paraître limpide, ça peut nous paraître très simple. Mais quand on doit faire en sorte à ce que quelqu'un qui ne connaît pas l'histoire doit lire le scénario ou même le faire comprendre à des gens extérieurs, si les dialogues sont mal faits, s'il n'y a pas ce qu'il faut, tout le reste passe à la trappe. Donc les dialogues, c'est extrêmement compliqué à mettre en place.
Okay. Parce que j'avais aussi, alors je sais plus du tout d'où je tire ça, mais j'avais entendu qu'aussi c'est les relations entre les personnages, les différents protagonistes et même personnages secondaires, tout ça. C'est compliqué de tout recoller, de tout faire, de tout lier en fait. Et ça, à ce niveau-là, c'est quoi ? C'est un peu galère ou ça va en fait ?
Je sais qu'il y en a qui peuvent se retrouver un peu bloqués là-dessus, surtout s'ils ont une histoire avec beaucoup de personnages à l'intérieur. Mais moi, personnellement, c'est des choses qui m'arrivent assez facilement en tête. C'est-à-dire que quand j'ai une l'idée d'une histoire, quand je suis en train d'écrire, que j'ai mon personnage principal, tout le reste à côté des autres personnages va me paraître quand même assez logique. Et ça, c'est aussi un de mes profs qui nous avait donné une technique pour ça. C'est-à-dire que il faut imaginer, quand on écrit une histoire, on a le personnage principal qui est au centre et on fait des cercles de différentes tailles autour de lui. Donc les cercles les plus fins et les plus resserrés sur lui, ça va être les personnages qui sont vraiment dans son entourage proche, donc la famille, les amis. Et on a un cercle un peu plus éloigné qui vont être les personnages secondaires qui vont être juste là pour l'aider dans l'histoire, etc., mais qui ne sont pas proches de lui, etc. Et c'est comme ça qu'on va construire les relations entre les personnages et le faire plus facilement. C'est en ayant ce schéma-là, on peut plus facilement relier les personnages entre eux, se dire lui, il connaît un tel, qui machin, intervient avec lui, etc. Non. C'est comme ça qu'on fait pour que ça soit un petit peu plus simple.
Merci beaucoup, Raphaël. On va marquer une courte pause musicale. C'est un peu punitif parce que avec vos deux arts, le graphisme et le cinéma, on peut pas le montrer à la radio. Donc c'est toi qui vas avoir
Let's
le privilège de pouvoir faire ta pub, mais vous pourrez faire votre petite pub après et parler de vos projets un peu plus actuels pour ce qui nous restera pour la fin d'émission. Donc là, on va écouter Boat de Denza. Du coup, qui a été produit par toi.
Exactement.
Est-ce que tu peux, avant qu'on lance le son, nous dire très rapidement comment on place une prod en fait pour un rappeur?
Là, j'ai de la chance parce que Denza, c'est c'est quand même un gros artiste entre guillemets, parce qu'il est là, il a vraiment un côté lui-même est beatmaker, et du coup beatmaker top liner, et du coup il a déjà placé plein d'autres gros artistes. Il est multi disque d'or, platine, diamant, et j'ai réussi à le rencontrer grâce à ma copine qui organise un événement à la Rock School. J'ai pu le croiser là-bas, on a discuté, en fait c'est plus devenu un ami que vraiment un collègue ou quelqu'un, un mentor ou quelqu'un que, comment dire, une star que je peux voir de loin. Là vraiment c'est quelqu'un qui vient à la maison discuter tranquille, boire un coup, passer une soirée, et j'avoue que c'est normalement c'est pas la meilleure méthode, mais juste j'ai mis des prods en fond pour lui faire écouter sur quoi j'étais en train de travailler. Et par accident, je lui ai fait écouter un truc qui datait un peu. Et en fait, il a accroché direct. Mais en fait, il ne faut pas hésiter à faire écouter des trucs à des artistes où on n'attend pas forcément de réponse, où ça ne colle pas vraiment à leur style. Parce qu'en fait, moi, généralement, les prods que je place côté humain, que je peux faire écouter en session studio ou juste comme ça, celles qui sont prises, c'est celles où je n'attends pas forcément de réponse, où je sais que ça peut coller, mais que c'est moins le style. Et en fait, faut faire écouter de tout, même des vieilles prods, généralement des trucs qui peuvent dater de 3-4 ans, mais en fait c'est encore totalement exploitable, quoi.
On va écouter Bot de Denza, du coup produit par Sucre ou Paul ici présent, et on revient tout de suite après sur Eau de Radio.
Yeah. Comme je dis souvent, après le beau temps c'est l'orage. Enfin bref, gain. Après ton décès, t'auras du succès. T'as des compétences, mais c'est pas assez. Tu veux du boulot, fuck ton CV. Veux juste quelqu'un qui sache sucer. La vie c'est méchant, on le sait. Depuis tout jeune, on se pense à mental. On froisse les instrumentales, même si les notes sont lamentables. Armage ici sur la table, la vie à Bego, elle est fade. Elle ne veut pas de ton smic, cette triste, elle s'est mis sur OnlyFans. Te prends la mif, ton mini G, slide. C'est pas qu'elle est timide, c'est quand je claque son as, elle rougit. La concu est dead, ça m'attriste. L'impression d'être dans la matrice. Tout est vert, des chiffres. J'écoute pas ta musique, tes chiffres ils analysent. Et 87, je fais mes vocalises. Font les drogues dealers, y'a rien dans leur valise. Mes nouvelles turn-up, toi tu veux qu'analyse. Mes nouvelles turn-up, toi tu veux qu'analyse. On fait trembler le bot, on fait trembler le fucking bot. Mes nanas, mes pirates dans le navire, que des fucking gouttes. On fait trembler le bot, on fait trembler le fucking bot. Ça sent la peau froide sous les glacis, les yeux rouges comme Summer Scott. On fait trembler le bot, on fait trembler le fucking bot. Mes nanas, mes pirates dans le navire, que des fucking bot. On fait trembler le bot, on fait trembler le fucking bot. Ça sent la peau froide sous les glacis, les yeux rouges comme Summer Scott. Les yeux rouges comme Summer Scott. Comme un X-Men, j'la pilote. J'craille tes mondes plein négro. Je vais finir par être votre lot. Putain, faut que je rappe moins fort. Il est 3h le petit dort. J'prends mes opérs, mes adlibs demain. Il est 3h le petit dort. La concu est dead, ça m'attriste. L'impression d'être dans la matrice. Tout est vert, des chiffres et des chiffres. J'écoute pas ta musique, tes chiffres ils analysent. Et 87, j'fais mes vocalises. Font les drogues dealers, y'a rien dans leur valise. Mes nouvelles turn-up, toi tu veux qu'analyse. On fait trembler le bot, on fait trembler le fucking bot. Mes nanas, mes pirates dans le navire, y'a des fucking gouttes. On fait trembler le bot, on fait trembler le fucking bot. Ça sent la peau froide sous les glacis, les yeux rouges comme Summer Scott. On fait trembler le bot, on fait trembler le fucking bot. Mes nanas, mes pirates dans le navire, y'a des fucking gouttes. On fait trembler le bot, on fait trembler le fucking bot. Ça sent la peau froide sous les glacis, les yeux rouges comme Summer Scott.
C'était Bot de Denza, du coup produit par Sucre, Paul ici présent, à retrouver sur le projet du coup Après le beau temps vient l'orage.
Exactement.
De Denza. Et donc je relaisse la main à Yon pour finir cette émission.
Très bien, merci Noé. Et du coup les gars, petite question rapide, parce que du coup là où vous en êtes, vous êtes très jeunes encore tous, donc forcément vous êtes en plein dans votre travail, dans ce que vous faites. Est-ce que vous avez déjà réfléchi à vos objectifs, votre goal ultime ce que vous voulez atteindre, est-ce que vous y en avez déjà pensé, ou est-ce que pour l'instant vous êtes je suis dans le travail là, pour l'instant je peux pas. Je pense que comme tout le monde vous y avez déjà pensé, mais on sait jamais. Ah, pas forcément, non.
Bah, non, si, forcément, on a forcément réfléchi au futur, ce qu'on a envie de faire. On a toujours, je pense que on a tous en nous un énorme projet qu'on a envie de concrétiser, mais pour l'instant, on met les moyens de côté. Moi, j'avoue que mon rêve, c'est quand même de faire un projet beatmaker avec que des artistes que j'apprécie, et justement de les mettre sur des terrains où ils n'ont pas forcément l'habitude. Et, mais après, la reconnaissance, tout ça, on s'en fout, on veut juste faire de l'art, on veut juste tester des choses, et si justement on peut... mon objectif, c'est d'apporter le côté underground vers le côté un peu plus mainstream, et justement faire découvrir de nouvelles choses à plein d'auditeurs variés, quoi. Donc, okay. si je peux faire écouter des sous-genres perdus, genre si je peux faire écouter de la step team à ma grand-mère, je suis chaud. Mais personne connaît les artistes qui produisent ça, ils ont quoi, 7000 auditeurs mensuels. Donc, ah oui, okay. C'est hyper hyper niché, mais si je peux apporter ça et créer une espèce de boom du genre, ça serait fantastique. Okay, mon rêve, c'est de mettre en lumière, voilà, un genre qui est sous-écouté, sous-estimé à mes yeux, mais c'est parce qu'il n'a pas atteint le bon public, ou pas atteint le grand public.
Oui, il n'a pas été propulsé, quoi.
Voilà.
Ok, ça marche, très bien. Et toi, Adrien ?
Moi, je pense que c'est un peu bidon, mais, mais j'ai juste envie de laisser une trace. En fait... pas, c'est vraiment mon objectif de vie, donc si je peux le faire via mon art, tant mieux, mais je vois pas trop comment le faire autrement, donc ouais, laisser une trace.
T'as pas par exemple aussi un objectif de travailler avec quelqu'un en particulier, je sais pas, est-ce que quelque chose comme ça, ou pas du tout, vraiment tu fais au feeling ce qui vient.
En fait, là depuis un an, c'est tellement la surprise de savoir avec qui je vais bosser, je pensais jamais aller aussi loin. Là, je bosse mondialement, en fait. Donc,
ah ouais, tu bosses pas qu'avec des gens de la France.
Je bosse plus à l'international que à national. Okay. Donc déjà, ça, c'est un rêve, en fait. C'est énorme. Donc j'aime bien le côté surprenant où je me dis, mais en fait, en trois serrages de main, je vais jusqu'à je sais pas qui. Enfin,
ouais, tu sors de la France, quoi.
Ah, mais c'est génial. Donc non, je sais pas si j'ai des artistes en particulier. Après, peut-être bosser un peu avec des marques de vêtements, je sais pas, Nike, Adidas, des trucs comme ça.
Ok, ouais. Intéressant. Ouais, c'est bien. C'est un bon objectif. Bah, après, c'est cool parce que du coup, toi, en vrai, t'as déjà un truc qui est super cool. Tu travailles mondialement, plaisir, tu fais tout au feeling. Vraiment, c'est vraiment cool. Ok, très bien. Et bah, pareil, bah, du coup, pour toi, Raphaël. Ouais, c'est Raphaël, ouais, c'est ça.
Oui, bah oui.
Non, j'ai eu peur de me tromper.
Alors maintenant, c'est Marc, il a changé.
Moi, en termes de... Si, j'ai quand même un gros projet que j'aimerais beaucoup faire plus tard, qui est une sorte de... Je sais pas si je pourrais appeler ça comme ça, parce que ça fait un peu prétentieux, mais un peu une sorte de grande saga science-fiction fantastique. Okay. Un peu en cross-média, donc que ce soit en travers de films, de séries, voir si je peux aussi y arriver, parce que c'est un truc que j'aime beaucoup au travers de comics, etc. Pour raconter toute cette histoire et tout l'univers que je crée au fur et à mesure depuis très longtemps maintenant. Et après, si je pouvais travailler avec des réals que j'aime beaucoup, bah, ce serait... des réels comme Christopher Nolan, James Gunn ou même Tim Burton, ça, ce serait vraiment...
Les big.
Ça serait vraiment incroyable. Ouais, bon. Puis après, voilà, en attendant, c'est surtout pouvoir faire les films qui me plaisent, faire... voilà, d'évoluer là-dedans, d'aller toujours un peu plus loin et faire en sorte à ce que les films qu'on produise puissent être diffusés au cinéma et être visibles par le plus grand nombre.
Et tout à l'heure, tu parlais d'horreur. Tu veux rester dans ça ou... En fait, bon, tu parles aussi... que t'aimais bien le truc des super-héros, tout ça. Est-ce que tu fais des espèces de featuring entre les deux thèmes ou pas du tout? Tu sépares un peu les deux?
Là, dernièrement, pour le Nikon Festival, justement, c'était un peu un mix des deux. Donc, avec le personnage central qui a des super-pouvoirs, mais le film est un film d'horreur en huis clos.
Okay.
Du coup, je mixe un peu les deux. Et après, non, généralement, j'essaye quand même de séparer un peu les deux, même si des fois, ça peut se rencontrer. C'est voilà, c'est j'ai pas, on va dire, de genre précis tout le temps. C'est quand j'ai envie d'écrire une histoire d'horreur, je vais me concentrer là-dessus. Quand j'ai envie de plus continuer mon univers avec les super-héros, je vais me continuer là-dessus, etc. c'est suivant en fait ce que j'ai envie d'écrire, ce que j'ai envie de raconter.
Ok. Et bon, bah, comme là, quand même, le temps de l'émission va bientôt arriver à son terme. Avant qu'on rende l'antenne, simplement, je voulais savoir, dans les projets futurs qui arrivent, est-ce qu'il y a des petites annonces que vous aimeriez faire par rapport à soit des projets qui vont aboutir bientôt ou des projets en cours pour un peu tenir au courant les personnes qui nous écoutent, etc.
Moi, ça fait longtemps que je suis en train de travailler avec un pote à moi de Strasbourg. Même la semaine prochaine, on est sur le point. Enfin, je vais me rendre à Strasbourg pour finaliser le projet. Après, ça va faire presque un an qu'on est en train de travailler dessus, qu'il a été travaillé, retravaillé, redécalé aussi, et jamais trop annoncé. Je sais pas si j'ai le droit de le sortir là maintenant, parce que ça se trouve il va me taper sur les doigts après.
Non mais pas de risque.
Après,
pas de
on
risque.
Va voir, hein.
Non mais s'il faut pas annoncer, annonce pas.
Ouais. Non mais si mais c'est un album à peu près 12 titres je dirais qui va sortir avec mon gâté FRST. voilà, on travaille dessus depuis un bout de temps et c'est vraiment comment dire. On est vraiment ensemble en train de définir sa patte artistique et justement la direction qu'il a envie de prendre par la suite. Et en fait, en un an, il a eu le temps d'évoluer de fou. Et je peux le dire aujourd'hui, genre les morceaux, les maquettes que je fais écouter à des gens, des trucs qui ne sont pas sortis, il n'y a pas une seule personne qui m'a dit qu'il n'aimait pas. Donc aujourd'hui, je peux dire que vraiment, le projet qui va sortir sera incroyable.
Et t'as un drum kit aussi pour les beatmakers
ouais,
qui
oui,
écouteraient.
Bon, il date un peu. En soi, ça fait longtemps que je dis qu'il faudrait que je sorte un autre, parce qu'en soi j'en ai deux ou trois
ceux
d'avance.
Pour ceux qui savent pas ce que c'est qu'un drum kit,
un drum kit c'est un pack de percussions pour les beatmakers compositeurs. Et du coup ça permet plutôt que de créer soi-même ses propres éléments d'acheter un pack complet et de pouvoir utiliser ces éléments là voilà. J'en ai fait un, c'était mon tout premier, il est pas terrible mais j'en suis quand même fier parce que c'est quand même une fierté de pouvoir dire bah, j'ai mon propre drum kit. Mais en soi je pense que par la suite j'en sortirai, mais peut-être gratuitement parce que j'ai fait de l'argent et maintenant j'ai envie de rendre à la communauté de donner. Mais
c'est beau.
Voilà. Et mais maintenant il me faut de l'argent pour financer le visualizer et je peux pas demander à Adrien parce qu'il est occupé. Donc,
donc là maintenant on peut te suivre sur les réseaux et ouais. On va attendre le projet. Du coup, si tu peux rappeler le nom de l'artiste.
FRST. Okay. En toutes lettres, FRST.
Ok, et on peut te suivre sur Instagram.
Voilà, si vous voulez, Sucre Beats et Sucre avec un V à la place du U, parce que sinon c'était déjà pris par 30 artistes différents. Voilà.
Très bien, d'accord. Et bah pareil, mais du coup pour toi, Adrien, est-ce qu'il y a des projets où t'es en cours, justement, t'es dessus, qui sortent bientôt, des trucs qui vont sortir sur Insta peut-être?
Alors cette année déjà, j'ai créé mon agence avec deux amis à moi que j'ai rencontrés en séminaire. Donc là, il y a quelques shootings avec incrustation 3D qui vont sortir dans les mois à venir. Donc déjà ça, c'est un gros cap. Et après, donc avec Paul, on est en train de réaliser un clip pour Azura, qui est un artiste bordelais. Donc voilà, ça devrait sortir d'ici 2-3 mois, si tout se passe bien.
Ok. Et pareil, mais comment on te suit, par exemple, si on veut voir ce clip directement sur ton... Alors je sais pas s'il sera directement sur ton réseau social. Enfin, sur Instagram.
Je vais forcément mettre des extraits sur mon Instagram, donc Dyax Graphics, DYAX Graphics. Mais dans tous les cas, si vous tapez Azura, vous trouverez.
Ok, très bien.
Et suivez-le, ça lui fait plus de followers et il sera content.
Voilà, ben n'hésitez pas à les suivre. Et pareil, ben du coup on va finir avec Raphaël. Donc alors toi en plus, ce qui se passe c'est qu'il va y avoir un festival aussi. Alors il a pas encore débuté.
Si il est là justement, on est en plein dedans.
Ah on est en plein dedans. Ben, voilà. Mais du coup, ben parfait. Alors mais pareil, du coup il va y avoir ta production qui va être sur, qui va sortir sur ce festival. Mais est-ce que tu peux rappeler ou tout simplement pour ceux qui savent pas, dire comment on va voir cette production et comment on vote, etc. Parce qu'il va y avoir un système de vote. Je te laisse un peu expliquer ce concept.
Ouais. Ben là, du coup, avec notre association Thomas Studio, on a fait 3 courts-métrages pour le Nikon Film Festival. Pour aller voir justement ces courts-métrages, c'est assez simple. Il suffit de se rendre sur le site du Nikon Film Festival. Et depuis ce site, on peut voter pour les différents films. Il suffit juste d'entrer le nom des films pour les visualiser et voter pour eux. Alors les films que nous on a produits, c'est Nouvelle Chance, donc ça c'est le film que j'ai écrit, réalisé et dans lequel je joue. Et à côté, on a deux autres films, un qui s'appelle Super Papa et l'autre qui s'appelle Le Déclic.
Ok, voilà. Très bien. Et donc pour voter, juste à taper le nom
Il faut voilà, entrer le nom du court-métrage sur la page du site. Voilà, le site est quand même très accessible, donc c'est pas hyper compliqué pour trouver l'endroit où c'est. Et après, visualiser le film, voter, et puis voilà.
Bon, bah, je pense qu'on a fait le tour. N'hésitez pas à suivre ces trois artistes. On vous souhaite en tout cas le meilleur pour la suite. Et merci beaucoup de nous avoir rejoints pour cette dernière émission de Jeunesse Influente, où on sera à la présentation. Dès la semaine prochaine, Pierre reprendra les rênes. On lui rend son émission. Donc notre émission touche déjà à sa fin, malheureusement. Merci encore aux invités, merci à Nico à la régie et merci à Yann d'avoir co-animé cette émission avec moi. Rendez-vous la semaine prochaine, même heure, pour un nouveau numéro de Jeunesse Influente, où, comme je l'ai déjà dit, on relaissera la main à Pierre pour la prochaine. C'était un plaisir. Bonne journée à toutes et tous. On va réussir à conclure sur les ondes d'Eau de Radio. Au revoir.
Jeunesse Influente.
C'était Jeunesse Influente, une émission présentée par et pour les jeunes, tous les mercredis 14h-15h, à retrouver en podcast sur eauderadio.fr.